Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi. J'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M, la dernière de la semaine, parce que oui, c'est le week-end qui s'en vient. Du 15 au 21 mars, c'est la semaine de prévention des empoisonnements. Et c'était pour moi un excellent prétexte pour parler de sécurité, de précaution aussi, en lien avec l'usage de nombreux produits que l'on utilise à l'intérieur de la maison, autour de la maison aussi, dans le jardin, dans le garage. Des produits nettoyants que vous utilisez au quotidien pour l'entretien ménager de la maison et qui peuvent nuire, des fois on ne le sait pas, hein, mais qui peuvent nuire à votre santé, à celle de votre famille. En deuxième partie d'émission, Alexandre Nadeau, lui, inspecteur de la sécurité des produits et porte-parole pour Santé Canada, sera là pour nous outiller et nous donner des conseils. Mais en premier lieu, l'amblyopie, qui est une déficience visuelle, touche environ 3 % de la population. Et récemment, il y a une équipe de chercheurs et de développeurs québécois qui ont conçu un premier traitement pour les personnes touchées par l'amblyopie. Et un traitement plutôt particulier, amusant aussi, parce qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Pour nous en parler, Dr. Simon Clavagnier, lui, chercheur à l'unité de recherche sur la vision de l'Université McGill. Dr. Clavagnier, bonjour.
Oui, bonjour.
Le traitement, les traitements connus jusqu'à ce jour pour traiter l'amblyopie, ça fonctionnait davantage pour les enfants que pour les adultes. Là, c'était un petit peu c'est plus ou moins efficace pour eux. Et le jeu sur lequel vous travaillez depuis 2007, en collaboration avec la compagnie Ubisoft et Ambliotech, Dégroche, c'est un jeu thérapeutique qui fonctionne aussi pour les adultes. Et en ce sens, j'imagine que c'est assez novateur.
Alors oui, parce que l'amblyopie, on ne pouvait traiter ça que pendant l'enfance. Après 12-13 ans, il n'y avait absolument rien à faire. Donc effectivement, le jeu vidéo tel qu'il est conçu fonctionne à la fois chez les enfants et aussi chez les adultes, et on n'a pas de limite d'âge. On veut dire, ça devrait pouvoir se faire jusqu'à 77 ans.
Mm-hmm. Un petit peu pour mettre la table pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est quoi l'amblyopie?
Alors l'amblyopie, c'est un œil qui fonctionne mal, c'est-à-dire que la vision d'un œil est très mauvaise. Ça se produit pendant l'enfance, au cours des premières années de vie, où pour une raison X ou Y que l'on ne connaît pas vraiment, il y a un œil qui se développe un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il aurait besoin de porter des verres, ou alors il y a une déviation qui se voit. Et le cerveau, pour limiter les perturbations, a tendance à ne plus du tout écouter cet œil. Donc, on se trouve avec un adulte ou un enfant qui ne voit qu'avec un seul œil.
Et c'est ce qui amène le strabisme, c'est bien ça?
Alors, le strabisme, c'est une cause de l'amblyopie.
Okay. Mm-hmm. C'est un impact, finalement, là. Un impact plus négatif. Est-ce que l'amblyopie, c'est lorsque ça touche qu'un œil, ou ça peut être les deux yeux à la fois?
Alors, on peut avoir deux yeux qui sont assez mauvais, mais l'amblyopie telle qu'elle est comprise, c'est il faut vraiment avoir une vision différente des deux yeux.
OK. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que l'on connaît les causes?
Alors, les causes, pour faire simple, non, on ne connaît pas les causes, mais il se trouve que quelqu'un qui est amblyope a plus de chances d'avoir des enfants amblyopes qu'un adulte qui ne l'est pas. Mm-hmm. Mais on parle de chance à ce niveau-là.
Mm-hmm. Et lorsque l'on parle d'impact, bon, on a parlé du strabisme, mais il y en a d'autres, j'imagine, sur le développement de l'enfant.
Alors, l'impact premier, dans les cas assez graves, c'est-à-dire que des cas assez sévères, on a un champ visuel qui est assez restreint, puisqu'on ne voit pas avec un œil. L'idée, c'est que quand les deux yeux sont ouverts, il n'y a qu'un seul œil qui voit. Donc, on parle vraiment de vision monoculaire. Donc, champ visuel restreint, pas de vision stéréo, c'est-à-dire une vision assez plate. Mm-hmm. Les nouvelles technologies sont absolument inutiles, et ça peut entraîner des problèmes de dextérité, d'aisance dans l'environnement.
Et ça empêche la vision en 3D aussi.
Ah oui, la vision 3D, la stéréo comme on l'appelle, okay, est absolument impossible.
Si l'on se met dans la peau des parents qui nous écoutent à la maison, est-ce qu'il y a des signaux d'alarme à observer? À quel moment il faut agir si
alors,
on pense que notre enfant vit avec de l'amblyopie?
Alors, l'idée, c'est d'agir le plus tôt possible, mais ce n'est pas forcément évident. Quand il y a une déviation de l'œil, ça se voit assez rapidement. Donc, il faut pouvoir corriger ceci. Si c'est un œil qui aurait besoin de porter des lunettes, des yeux qui auraient besoin de porter des lunettes, dans ce cas-là, les signes, c'est des enfants qui se plaignent de maux de tête, qui se plaignent de vision trouble. Enfin, et un signe qui peut se voir, c'est l'enfant qui commence à tourner la tête. Et tourner la tête pour regarder les choses, parce qu'il y a un œil qui voit bien. Et donc, il faut aller voir l'optométriste ou l'ophtalmologiste assez rapidement.
Est-ce que l'amblyopie peut être liée à d'autres déficiences visuelles, myopie par exemple?
La myopie et hypermétropie, oui, okay. Bien sûr. Mais on parle dans ce cas-là de deux yeux qui auraient besoin de porter des verres différents.
Ok. Pourquoi c'est important de traiter l'amblyopie rapidement, docteur Clavani?
Mais c'est parce que jusqu'à ce que l'on trouve ce traitement, il n'y avait absolument rien à faire chez l'adulte. Mm-hmm. Donc, ils pouvaient porter les lunettes qu'ils veulent, pouvaient faire ce qu'ils voulaient, les adultes, mais ils ne pouvaient pas utiliser leur œil amblyope. Donc, ça entraîne les problèmes dont on a parlé. Et puis, bien entendu, plus on vieillit et plus on s'inquiète de perdre la vision qu'on a avec le bon œil.
Mm-hmm. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à partir d'un certain âge, il n'y a plus rien à faire.
Oui, c'était vrai jusqu'à maintenant.
Mm-hmm. Oui, et ça, bien sûr, on va en parler. Juste avant, je veux revenir sur l'amblyopie et les enfants. Est-ce que souvent, le diagnostic va arriver lorsque l'enfant entre à l'école?
Oui, parce que quand il commence à lire, ça se voit bien quand il essaye de lire, et tous les problèmes, ça commence à apparaître à ce moment-là.
Et est-ce qu'à ce moment-là, on parle de 6 ou 7 ans, il est déjà trop tard pour agir? L'amblyopie a déjà fait ses méfaits?
Alors, il n'est pas trop tard, mais il est déjà tard.
Oui, voilà. Et de là, bon, la pertinence de ce jeu qui s'appelle Rush. Vous travaillez dessus depuis 2007 et en fait, ça contrecarre un petit peu les traitements habituels. C'est quoi la particularité de ce jeu-là, à part qu'il peut être efficace chez les adultes également?
Alors, c'est pas vraiment le jeu en lui-même, c'est plutôt la façon dont les images sont présentées. Donc, la particularité, c'est qu'on ne considère pas l'amblyopie comme un problème d'un seul œil, mais un problème de deux yeux. Donc, on veut commencer à montrer qu'il faut deux yeux et qu'il faut convaincre le cerveau à utiliser les deux yeux en même temps. Donc, on traite l'amblyopie par la vision binoculaire. Donc, pour ce faire, on montre deux images différentes. Donc, on ne peut pas réussir le jeu si on ferme l'œil amblyope, comme les amblyopes ont l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Et on diminue le contraste. C'est comme si on freinait l'œil fort. Et à ce moment-là, les amblyopes, adultes ou enfants, cessent d'utiliser la stratégie qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de supprimer la vision qui vient de cet œil amblyope. Ils commencent à travailler en vision binoculaire. Le jeu est là pour convaincre que pour réussir, il faut utiliser les deux yeux.
Mm-hmm. Faire comprendre au cerveau que les deux yeux sont importants.
Exactement.
Oui.
Et chez un enfant, c'est facile. Chez un adulte, il faut vraiment le persuader. Il faut vraiment le convaincre.
Et c'est assez ludique. Là, on parle de... c'est des taupes qui creusent dans le sol pour chercher de l'or. Est-ce que c'était important, ce côté ludique-là, ou c'est arrivé un petit peu là, de soi?
C'est arrivé. C'est pas la première chose qu'on a faite. On a commencé avec des tâches classiques, expérimentales, avec des points qui bougent, qui n'étaient pas très passionnantes. Et puis on s'est embrayé sur des jeux qui étaient dans le libre, comme le jeu de Tetris. Et puis on a pu collaborer avec Ubisoft. Donc le principe du jeu n'a d'intérêt que pour aider, et notamment les enfants, à s'entraîner.
Mais le fait qu'ils soient en deux couleurs, par exemple, est-ce que ça, c'était important?
Alors ça, c'est le principe fondamental, c'est-à-dire que les deux couleurs sont différentes pour être vues avec des filtres différents. Par exemple, les animaux qui sont vus en rouge sont vus avec l'œil gauche et les objets qui sont vus en bleu sont vus avec l'œil droit.
Ah oui, OK. Et il y a un port de lunettes également?
pour les enfants qui ont, les adultes qui en ont besoin, oui, bien entendu. On veut absolument que le problème ne vienne plus de l'œil. Donc, on veut que les personnes portent les lunettes dont elles ont besoin. Ou, si on parle de strabisme, porter des prismes pour pouvoir aligner l'image.
Mm-hmm. Et ce jeu-là, il vise quel type de clientèle? Plus les enfants, plus les adultes? Parce qu'il a déjà été testé, 80 adultes, 160 enfants. Ce sont plus les enfants qui sont visés avec ce jeu?
Alors, non, tout le monde est visé. Absolument tout le monde est visé. Effectivement, on commence à avoir pas mal de résultats sur les adultes et sur les enfants, mais on est surtout en ce moment en train de faire tourner des essais cliniques pour ne plus parler de résultats d'expérience probante, mais parler vraiment de traitement médical. Mm-hmm. Donc, dans un an ou deux, quand on aura les résultats, ce qu'on espère positif, dans ce cas-là, le principe du traitement sera reconnu par le milieu médical et Ubisoft et Embiotech pourront commercialiser leur jeu. Mm-hmm. Ubisoft, pour le moment, a préparé un jeu qu'ils appellent Digroche. Et si le succès est au rendez-vous, dans ce cas-là, ils vont certainement proposer toute une carrière de jeux différentes.
Mm-hmm. Oui, parce que ça, c'est extrêmement novateur, ce jeu thérapeutique. Je pense que c'est la première fois qu'Ubisoft a comme but ou comme envie de commercialiser un jeu vidéo thérapeutique comme Dig Rush. Il faudrait l'utiliser, ça serait quoi la prescription pour voir des résultats probants? L'utiliser combien de fois semaine, sur quel type de durée?
Alors, l'avantage de ce traitement, c'est qu'il peut être extrêmement rapide. On parle d'à peu près 6 semaines, grand maximum. Et encore, on n'a pas exploré toutes les possibilités. Mais l'idée que ce soit une prescription, c'est qu'on veut retourner ce traitement dans le milieu médical, et on va parler du jeu comme d'un médicament.
Ouais.
C'est-à-dire, il faut être sûr que pour la personne, elle pourra en tirer des bénéfices. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il faut deux bons yeux. Donc l'ophtalmologiste qui va prescrire le jeu va s'assurer que les deux yeux de la personne sont sains ou parfaitement corrigés. Et puis, une fois que la prescription est faite, alors là, dans ce cas-là, on parle de jouer à peu près, pour le moment, on parle de jouer 1 heure pendant 6 semaines.
Oui. Et jouer, c'est pas une tâche, c'est pas lourd. Donc déjà, d'avoir envie de faire notre traitement, notamment chez les enfants, ça doit avoir un impact extrêmement positif.
Extrêmement positif, surtout que si on pense à la solution de repli, qui est le cacher l'œil fort, qui entraîne l'enfant pendant à peu près 1 ou 2 ans, cacher son œil fort, donc c'est-à-dire l'œil qui voit bien pendant toute la journée, avec le port du patch à l'école, où ils peuvent pas jouer, ils ont du mal à suivre les cours, et nous, on demande de jouer 1 heure par jour à la maison, à Digroche, ce qui est beaucoup plus aisé.
Oui. Et pour les adultes, est-ce que vous avez eu des retours positifs? Parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, là, les résultats sont moins probants en ce qui a trait au traitement conventionnel de l'amblyopie. Mais avec Digroche, il y a des résultats plus positifs.
Alors, avec le jeu, on a chez les adultes 90% de réussite. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, 80% des adultes sont capables de voir avec leurs 2 yeux en même temps. Et en plus, pour certains, on a été capable, on parle de 2/3 des cas, on a été capable d'améliorer leur vision 3D, leur vision stéréo.
Mm-hmm.
Et également une amélioration de la vision du mauvais œil, de l'œil amblyope, ce qui était attendu dans la théorie, c'est-à-dire qu'en traitant les 2 yeux en même temps, on améliore la vision d'un seul œil, mais qui n'était pas forcément évidente. Donc, chez les adultes, on a d'un côté un traitement qui ne marche pas, et de l'autre, un traitement qui peut être très efficace.
Donc, on attend la commercialisation de Digroche d'ici 2 ans. Ça sera prescrit par un ophtalmologiste, comme vous l'avez bien dit, Dr. Simon Clavanier. Donc, pas nécessairement, on ne le retrouvera pas sur les tablettes, là. Ça va vraiment être par l'entremise de spécialistes de la santé.
Non, pour commencer, on veut vraiment que ce soit bien encadré pour donner la chance du traitement, pour lui donner un maximum de chance, pardon.
Mm-hmm. Docteur Simon Clavanier, vous êtes chercheur à l'unité de recherche sur la vision de l'Université McGill. Merci beaucoup, on va suivre ça de près.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, /M.
On utilise des produits qui peuvent être dangereux pour notre santé. Et en cette semaine de la prévention des empoisonnements, c'était l'occasion idéale pour en parler. Alexandre Nadeau, vous êtes inspecteur de la sécurité des produits et porte-parole pour Santé Canada. Bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
À quels produits il faudrait faire attention? Les produits, bien sûr, que l'on retrouve à la maison.
Bien, il y a toute une gamme de produits qui peuvent poser des risques à la santé, donc on retrouve à la maison. On peut penser aux colles, aux pots de peinture, les contenants de lave-vite, d'essence, les produits d'entretien ménager, naturellement, mais aussi les produits pour entretenir la piscine ou les combustibles à fond aussi.
Il y a aussi des précautions à prendre dans le rangement de ces produits-là.
Naturellement. Donc, la première chose qu'on mentionne, c'est de ranger ces produits-là de façon sécuritaire. Donc, ce que j'entends de façon sécuritaire, c'est hors de la portée des enfants. Mm-hmm. Donc, l'idéal, c'est bien sûr de mettre les produits sous clé. Une alternative, si on n'a pas d'armoire qui ferme à clé, c'est d'installer un loquet. Donc, le genre de loquet qui peut être acheté dans n'importe quel magasin d'articles pour enfants. Il faut garder à l'esprit, cependant, que les loquets doivent être vus comme un moyen de dissuasion qui vont compliquer la tâche de l'enfant. Donc, au-delà d'un certain âge, l'enfant va acquérir un niveau d'habileté qui est suffisant pour déjouer le loquet.
Mm-hmm.
Peut-être l'autre élément de réponse à votre question, c'est de vous conseiller de garder les produits hors de la vue des enfants.
Oui, oui.
Donc, lorsqu'on laisse des produits à la vue de l'enfant, on cultive sa curiosité. Et dès qu'on fait l'erreur de laisser le produit à sa portée, il risque de vouloir accéder au produit.
Mais je pense aussi, Alexandre, à des produits qui pourraient exploser s'ils sont près d'une source de chaleur. Il faut quand même prendre garde à ça.
Bien, vous faites bien de le mentionner. Et toujours dans l'aspect de comment ranger ces produits, c'est peut-être un élément de réponse supplémentaire. Qu'il existe certains produits qui peuvent dégager des vapeurs qui sont soit nocives ou inflammables, mm-hmm, et qu'on devrait éviter de garder à l'intérieur de la maison. Donc, comme par exemple, je pourrais mentionner les peintures, les solvants, l'essence ou encore les carburants.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a quelque chose à observer par rapport à l'expiration des produits, c'est-à-dire un produit qui, quand il est périmé ou je ne sais trop, devient plus dangereux, plus nocif pour la santé?
Bien, je n'ai pas d'exemple qui vienne à mon esprit par rapport à des produits qui pourraient expirer. Donc, lorsque un produit va expirer au-delà d'une certaine date et qui éventuellement pourrait porter un risque qui est différent, l'étiquette devrait en faire mention. Mm-hmm. Donc, c'est de respecter ce qui est indiqué sur l'étiquette. Et lorsque le produit expire ou lorsqu'on sait qu'on n'aura plus besoin du produit, qu'on a un surplus, on doit s'en débarrasser de façon sécuritaire. Donc, habituellement, au Québec, les directives pour disposer des produits chimiques sont données par les municipalités, donc ce sont elles que vous devriez contacter. Et le plus souvent, on va vous orienter vers un éco-centre.
Oui. Maintenant, comment on devrait utiliser ces produits-là de façon sécuritaire?
Ben, il y a peut-être deux volets à votre question. Quelle utilisation qu'on en fait en tant qu'adulte et comment on doit utiliser les produits pour éviter que les enfants soient exposés à un risque? Donc, pour les adultes, je vous dirais qu'avant de mettre un produit en marché, le fabricant doit évaluer son produit et déterminer tous les dangers qui sont posés par son produit. Donc, à partir de cette information-là, on désigne une étiquette. Et ce qui est très important de la part du consommateur, c'est de se référer à l'étiquette. Et le risque qui guette le consommateur, surtout si, comme moi, c'est vous qui héritez de tous les travaux de bricolage et d'entretien ménager à la maison, c'est qu'à un certain moment, on se sente peut-être trop familier avec les produits et qu'on se limite à regarder le pictogramme. Puis on se dit, oh, j'ai déjà vu ce pictogramme-là, le pictogramme de la tête de mort, par exemple, je sais à quoi m'en tenir, mais pas nécessairement. Un même pictogramme peut avoir différentes significations, comme par exemple le pictogramme de la tête de mort dont je vous mentionnais. Mm-hmm. On sait naturellement, intuitivement, qu'on ne doit pas l'avaler, mais dans certains cas, ça peut signifier qu'on doit porter un masque. Et malheureusement, c'est une information qui apparaît peut-être en plus petit caractère sur l'étiquette et qui est négligée, et ça amène des hospitalisations même chez les adultes.
Mm-hmm. Mais parlons-en justement de ces symboles que l'on retrouve sur les produits. Alexandre Nadeau, il y a cette tête de mort-là, il y en a d'autres également?
Oui, il y a les pictogrammes pour les produits inflammables, les produits qui sont corrosifs, qui vont brûler la peau. Donc, je pense intuitivement, on comprend ce qu'elle signifie, ce qui n'est pas nécessairement le cas des jeunes enfants. Donc, on devrait leur expliquer que les pictogrammes, sans s'attarder individuellement à chacun d'entre eux, ils veulent dire que c'est danger ne pas toucher.
Ouais.
Et pour les enfants, les pictogrammes peuvent être reconnaissables à partir d'un certain âge, mais il y a un produit qui fait l'actualité dernièrement, ce sont les petits sachets de détergent. Et ces produits-là, si on veut se représenter le risque simplement, c'est qu'ils sont très attirants pour les enfants, surtout en bas âge, donc en bas de 2 ans, par leur forme, leur taille, leur texture et surtout la couleur vive des sachets, qui fait en sorte que les enfants en bas âge vont prendre ces produits-là pour des friandises. Donc, on nous informe que, justement, c'est les enfants en bas âge qui sont le plus souvent impliqués dans les incidents. Et ce ne sont pas des produits, les petits sachets de détergent, toujours, qui sont fortement toxiques. Donc, au sens réglementaire, ce sont des produits qui sont considérés comme irritants. Donc, ils ne sont pas vendus dans des contenants qui sont protégeants. Enfin. Donc, pour cette raison-là, le gouvernement du Canada travaille avec ses homologues américains au développement d'une norme qui va rendre plus sécuritaire les petits sachets de détergent.
Oui, et encore là, ça reste dans le rangement de ces produits-là, s'ils sont à la portée des enfants ou non.
Absolument. Donc, ça revient au conseil que je vous disais en entrée d'émission, que les produits doivent être gardés hors de portée, hors de vue des enfants. On n'est pas à l'abri d'accidents. Un sachet qu'on laisse traîner. Donc, c'est pourquoi la norme sur laquelle on travaille va apporter 2-3 éléments de sécurité supplémentaires. Je peux peut-être vous les résumer très rapidement. Donc, en premier lieu, ces sachets-là sont vendus dans un contenant qui est transparent. Mm-hmm. Donc, pour un enfant, ça peut avoir l'air d'un gros pot de bonbons. Donc, ensuite, avec la norme, les contenants vont devenir opaques. Ensuite, la norme va exiger qu'il y ait sur les emballages des avertissements qui sont voyants. Et en dernier lieu, la norme va demander aux fabricants de vendre leurs sachets dans des contenants qui sont de type protège enfant.
Mm-hmm. Et peut-être qu'on pourrait mettre des couleurs un petit peu moins attrayantes.
Ça pourrait faire l'objet d'une modification. La norme est encore en cours de développement. Une fois qu'elle va être adoptée et mise en application par l'industrie, c'est sûr que ce n'est pas une finalité. Donc, on suit l'évolution de la situation. S'il y a d'autres modifications qui pourraient être faites éventuellement, on va les proposer.
Il y a ce sachet de détergent à lessive. Il y a aussi les petites capsules que l'on met dans les lave-vaisselle qui sont assez attirants pour les enfants.
Bien, la préoccupation est la même. Donc, c'est des produits qui, par leur forme, leur couleur, vont attirer l'attention des enfants, les contenants dans lesquels ils sont vendus aussi. Donc, les précautions à prendre sont les mêmes. Vous faites bien de le mentionner, ce n'est pas la problématique n'est pas limitée aux détergents à lessive. Mais les produits de la vaisselle aussi doivent être gardés hors de la portée des enfants.
Alexandre Nadeau, je reviens sur l'usage des produits chimiques que l'on retrouve à la maison. On a parlé de produits corrosifs ou inflammables. Est-ce qu'il faudrait les utiliser avec des gants, des lunettes, des masques?
Bien, c'est des informations qui vont apparaître sur l'étiquette. Donc, des fois, si je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec les produits pour lesquels on doit porter un masque, chez les adultes, il y a eu beaucoup d'incidents rapportés dans les dernières années avec certains produits imperméabilisés en aérosol. Et l'instruction de porter un masque a été négligée et souvent ça a amené à plusieurs hospitalisations. Donc, vous mentionnez aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre enfant. Leur donner l'exemple. Lorsque nos enfants atteignent un certain âge, leur donner l'exemple que lorsqu'on utilise un produit qui nécessite qu'on porte des gants ou qu'on porte un masque, qu'on le fasse, comme c'est mentionné sur l'étiquette. Des fois, on va dire, je vais mettre les gants à partir du moment où ça va me chauffer un petit peu la main, où je vais commencer à sentir que c'est irrité, ou à partir du moment où je commence à manquer d'air, je vais mettre un masque, mais des fois, à ce moment-là, il est déjà trop tard.
Oui. Et c'est aussi, vous parlez de manquer d'air, c'est aussi d'utiliser les produits dans un environnement qui est sécuritaire. Si l'on sait que le produit peut dégager des vapeurs, on pense à ouvrir les fenêtres, par exemple.
À ouvrir les fenêtres, ça fait partie des mentions d'étiquetage. Donc, utiliser certains produits dans un endroit qui est aéré. Et encore une fois, à partir du moment où on ressent des symptômes, il est parfois trop tard.
Ouais.
Et la situation, à partir de là, même si on change de pièce, et on retire notre exposition au produit, il est trop tard, les symptômes peuvent aller en empirant déjà.
Justement, on pourrait en parler, bien sûr, vous n'êtes pas médecin, Alexandre Nadeau, mais comment on identifie les malaises qui sont liés à un empoisonnement aux produits chimiques?
Bien, ils vont varier d'un produit à l'autre, dépendant de quel type de produit on a à faire. Donc, les symptômes d'empoisonnement, si on peut prendre l'exemple, par exemple, des petites capsules de détergent, vont inclure des vomissements, des nausées, de la toux, un étouffement, de la difficulté à respirer. La personne peut être dans un état léthargique. On parle dans ce cas-ci d'un lorsqu'on avale le produit, mais les pellicules de ces sachets-là sont faciles à briser et lorsqu'on s'expose la peau, lorsque l'enfant s'expose la peau, ça peut amener des brûlures, des brûlures chimiques ou des réactions cutanées. Et dans certains cas, lorsqu'on porte les mains aux yeux,
oui,
ça peut amener une cécité, donc un aveuglement qui va être temporaire là, chez l'enfant.
Et on fait quoi en cas de contact avec ces produits-là, en cas d'empoisonnement?
Ouais, je pense que le plus important dans une situation comme celle-là, même si c'est pas toujours facile, c'est de rester calme. Donc, la première étape, c'est de consulter l'énoncé de premiers soins qu'il va y avoir sur l'étiquette. La deuxième étape, c'est de téléphoner à un centre antipoison. Donc, en ce sens, c'est toujours une pratique souhaitable d'avoir le numéro à portée de la main ou de l'avoir programmé dans son téléphone. Et le centre antipoison, à partir des informations que vous allez pouvoir lui fournir, donc quel est l'état de la personne, quelle a été son exposition, quel produit est-ce qu'il a avalé, va pouvoir vous donner des directives supplémentaires. Dans certains cas, on va vous demander de vous déplacer vers un centre hospitalier, apporter avec vous le contenant du produit chimique auquel la personne a été exposée. Sur l'étiquette, il y a souvent de l'indication sur les ingrédients dangereux et ça va aider la personne qui vous donne des soins. Et finalement, peut-être comme mesure de suivi, je vous encouragerais à signaler tout empoisonnement à l'entreprise qui vous a vendu le produit, ou aussi à Santé Canada. Donc, pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet à l'adresse canada.ca/santé et en rapportant des cas d'empoisonnement comme ça à Santé Canada, nous, on est en mesure de faire un suivi avec l'industrie et s'assurer que la réglementation qui est applicable aux produits chimiques est respectée.
Et bien sûr, on glissera ce lien sur le site du Canalem. En terminant, Alexandre Nadeau, j'ajouterais que, justement, en cas d'énervement, vous l'avez bien mentionné, on peut oublier des étapes. Ça peut être bien de se familiariser avec le produit avant qu'un pépin, un grave pépin arrive.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'énoncé de premiers soins est facilement retraçable sur l'étiquette. Il est encadré d'une bordure et est en caractère gras. Donc, mais vous avez raison, toujours lire l'étiquette, et ça inclut l'énoncé de premiers soins, c'est une bonne mesure à prendre, même lorsqu'on a l'impression qu'on est familier avec les produits.
Oui, et parfois, c'est les produits que l'on utilise le plus souvent. Je pense à l'eau de Javel, par exemple, qui peuvent justement nuire à notre santé, mais parce qu'on pense que c'est banal, on oublie les mesures de précaution.
Alexandre
Nadeau, vous êtes inspecteur de la sécurité des produits, porte-parole pour Santé Canada. Merci beaucoup. Bonne semaine de la prévention des empoisonnements qui termine demain.
Ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, merci d'avoir été là. C'est ainsi que l'on termine notre semaine. Marianne Paquette au micro, Rémi Hermoso à la mise en onde. Profitez de la fin de semaine pour vous reposer. Nous, on est de retour lundi 14h. C'est un rendez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.